Parce que mon grand-père avait donc fait la guerre de 14-18. Il était rentré à l'issue de ce conflit. Mais alors, il était vraiment remonté, comme on dit, contre la guerre.
Pas contre les Allemands, contre la guerre.
Pour lui, les Allemands, ceux qu'il avait en face de lui, c'était les Boches. Mais il n'en voulait pas aux Boches, il en voulait aux soldats. C'est-à-dire, il en voulait à ceux qui étaient face à lui. D'ailleurs, il est mort, il devait avoir 68 ans, en 1949, il est mort des gaz qu'il avait inhalés tout au long de la guerre.
Oui,
il perdait. Il ne pouvait plus souffler, il avait de l'emphysème, de l'asthme. Enfin, la nuit, il se débattait dans ses draps, il déchirait tous ses draps parce qu'il ne pouvait plus respirer. Alors tout ça, ça l'avait marqué quand même. Mais enfin, il ne s'est jamais appesanti là-dessus. Mm-hmm. Par contre, la guerre, lui, il avait gardé une espèce de haine contre la soldatesque et puis surtout l'autorité militaire.
Soyez prévenus, vieillard. Soyez prévenus, chef de famille, le temps où vous donniez vos fils à la patrie, comme on donne du pain aux pigeons, ce temps-là ne reviendra plus. Prenez-en votre parti, c'est fini, le temps des cerises ne reviendra plus, et le temps des noyaux non plus. Inutile de gémir, allez plutôt dormir, vous tombez de sommeil. Votre sueur est fraîchement repassée, le marchand de sable va passer, préparez vos mentonnières, fermez vos paupières, le marchand de gadou va vous emporter. C'est fini, les trois mousquetaires. Voici le temps des égoutiers. Lorsqu'avec un bon sourire dans le métropolitain, poliment vous nous demandiez, deux points, ouvrez les guillemets, descendez-vous à la prochaine, jeune homme, c'est de la guerre dont vous nous parliez. Mais vous ne nous ferez plus le coup du père français. Non, mon capitaine, non, monsieur Attel, non, papa, non, maman, nous ne descendrons pas à la prochaine ou nous vous descendrons avant. On vous foutra par la portière. C'est plus pratique que le cimetière, c'est plus gai, plus vite fait, c'est moins cher. Lorsque vous reveniez de la revue avec vos enfants sur vos épaules, vous étiez sous sans avoir rien bu. Et votre moelle épinière faisait la folle et la fière. Devant la caserne de la pépinière, vous travailliez de la crinière quand passaient les beaux cuirassiers. Et la musique militaire vous chatouillait de la tête aux pieds, vous chatouillait. Et les enfants que vous portiez sur vos épaules, vous les avez laissés glisser dans la boue tricolore, dans la glaise des morts, et vos épaules se sont voûtées. Il faut bien que jeunesse se passe. Vous l'avez laissé trépasser. Hommes honorables et très estimés dans votre quartier, vous vous rencontrez, vous vous congratulez, vous vous coagulez. Hélas, hélas, cher monsieur Babylas, j'avais trois fils et je les ai donnés à la patrie. Hélas, hélas, cher monsieur de mes deux, moi je n'en ai donné que deux. On fait ce qu'on peut. Ce que c'est que de nous? Avez-vous toujours mal aux genoux? La larme à l'œil, la fausse morve de deuil, le crêpe au chapeau, les pieds bien au chaud, les couronnes mortuaires et l'ail dans le gigot. Ah, vous souvenez-vous de l'avant-guerre, les cuillères à absinthe, les omnibus à chevaux, les épingles à cheveux, les retraites aux flambeaux. Ah, que c'était beau, c'était le bon temps. Bouclez-la, vieillard. Cessez de remuer vos langues mortes entre vos dents de faux ivoire. Le temps des omnibus à cheveux, le temps des épingles à chevaux, ce temps-là ne reviendra plus. À droite par quatre, ramassez vos vieux os. En arrière, grand-père. En arrière, père et mère. En arrière, arrière, grand-père. En arrière, vieux militaire. En arrière, les aumôniers. En arrière, les aumônières. Le spectacle est terminé. Mais Pour les enfants, la séance va maintenant commencer.
Ayant obligé l'homme de la terre à quitter l'outil des labeurs féconds, pourquoi s'étonner du train militaire qui va chez la mort emplir ses wagons? Pourquoi franchement ne pas dire au monde ce que chaque jour j'ai mis notre cœur? Le champ dévasté par la guerre immonde est un abattoir, plus qu'un champ d'honneur. Ayant obligé les hommes des villes à suivre au charnier l'homme des sillons, pourquoi mépriser les hordes serviles dont les étendards sont des guenillons? Pourquoi de grands mots, de formules creuses, travestir des faits qui nous font horreur? Le champ moissonné par les mitrailleuses est un abattoir, plus qu'un champ d'honneur.
Bonsoir, notre émission de ce soir est la première d'une série de deux consacrée à Fernand Jelin. Fernand Jelin fait partie lui aussi de ces 1 343 000 jeunes Français appelés entre 1956 et 1962 qui ont été envoyés combattre en Algérie, dont plus de 13 000 ne reviendront pas vivants. Né à Lyon en 1934, Fernand Jelin était déjà marqué par deux guerres dans sa vie et sa famille, 14-18 et 39-45. Nous l'avons entendu en ouverture d'émission évoquer l'expérience de son grand-père, qui l'a très tôt sensibilisé à s'opposer à la guerre. Cependant, à l'âge de 20 ans, il sera appelé et envoyé en Algérie combattre pour la France comme on l'a fait croire à tous ces jeunes. Même si son histoire avec la guerre d'Algérie fut finalement moins terrible pour lui que pour d'autres, il est revenu marqué et encore plus antimilitariste, s'engageant contre la guerre de suite, jusqu'à aujourd'hui encore, où il préside pour le département du Rhône l'association ARAC, Association républicaine des anciens combattants et victimes de la guerre, des combattants pour l'amitié, la solidarité, la mémoire, l'antifascisme et la paix. Au fil de ses propos, des illustrations musicales viendront ponctuer son récit. Dans cette première émission, nous nous attarderons sur le cheminement de vie de sa jeunesse qui, en lui-même, présente tout l'intérêt de l'évocation du contexte moral, social et politique de la première moitié du XXe siècle. Bonne écoute.
Monsieur Jelin, bonjour. Je vous remercie de me recevoir pour Radio Canu pour un entretien autour de votre expérience de vie pendant la guerre d'Algérie en particulier, mais on va partir de plus tôt que ça, c'est-à-dire de votre enfance, de votre naissance. Vous êtes lyonnais d'origine ?
Je suis lyonnais. Je suis même du 7e arrondissement. Je suis né à Gerland, mais quand je vous aurais dit où, vous aurez tout de suite compris. C'est-à-dire que je suis né à l'endroit que l'on appelait à l'époque la maison des filles-mères. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'était le château de Gerland. Mais le château de Gerland, ça avait été consacré à recevoir les femmes qui avaient...
Seul dans la vie,
qui était devenu, oui, qui avait, disons, à faire face à leur grossesse, quoi, pendant.
Ce château, c'était quoi ? C'était un bâtiment.
C'était une espèce de petite. C'était une espèce de villa. Mm-hmm. De villa, et puis, bon, il y a dû certainement y avoir quelques aménagements. Et. C'est donc pendant longtemps, ça a été donc l'endroit où on recevait les filles mères. Alors il faut dire aussi qu'à l'époque, il y avait un maire qui s'appelait Édouard Herriot, hein, et qui étaient sensibles aux problèmes qu'éprouvaient toutes ces personnes, quoi.
Donc votre mère était dans cette situation, quoi.
Alors ma mère, elle était originaire de la Saône-et-Loire, enfin de Mâcon. Elle était née à Mâcon. Mmh. Ses parents habitaient le Haut-Beaujolais, c'est-à-dire Chénat, je ne sais pas si vous... Chénat, enfin c'est un cru, hein. C'est même la commune qui comporte deux crues sur son territoire, c'est-à-dire le Chénat et le Moulin à Vent. Ah, ouais. Et alors, bon, que mon grand-père était bien sûr viticulteur, même pépiniériste. Et alors, il se trouve que, bon, il y a eu des petits problèmes qui se sont posés à un certain moment, des problèmes de concurrence, déjà, hein, entre paysans et pépiniéristes. Mais seulement, quelquefois, les enfants, quand ils se rendent compte, ils ne tiennent pas compte trop des contingences de leurs parents. Ce qui veut dire que, bon, ben, ils se sont connus, c'était des amis d'enfance, mon père et ma mère. Et puis, mes deux grands-pères s'étant fâchés, parce que l'un étant jaloux de l'autre, eh bien, il y a eu une situation qui a rendu toute relation impossible entre les deux familles. Mon père s'est rangé, enfin mon père biologique, disons, il s'est rangé derrière l'oukase de son père, et puis ma mère s'est retrouvée toute seule.
Ah oui. Et puis, ils avaient pris le temps de se marier ou
pas du tout, pas du tout, non. Non, non. Non, c'était des amis d'enfance pourtant qui avaient fait leur scolarité ensemble, enfin c'était comme ça faisait dans les campagnes. Hein.
Les votre familles. Mère s'est retrouvée seule à Mâcon et
en Non, ma mère s'est retrouvée à Chénat, c'est dans un, je ne sais pas si vous connaissez le coin, mais il y a un hameau qui est d'ailleurs plus important que le centre de Chénat, qui s'appelle Les Deschamps. C'est un hameau qui est situé entre la Saône-et-Loire et le Rhône, c'est-à-dire la rue principale, elle sépare, il y a un côté des Deschamps qui figure sur la Saône-et-Loire et l'autre sur le... C'est-à-dire que, alors ma mère étant du côté du Rhône et mon père du côté de la Saône-et-Loire, il y avait quand même au départ des choses qui ne pouvaient pas permettre un rapprochement naturel, disons, ou même administratif.
Ils ont rompu leur relation à ce moment-là.
Ah oui, c'est devenu... c'était devenu de la haine.
Ah, oui.
Alors c'est toujours délicat parce que quand on évoque ces questions, on a l'impression toujours de choisir son camp, quoi.
Oui, on aurait pu penser que les deux amoureux quittent la région.
Mais et à l'époque, les relations de père-fils étaient fortes. Alors ce qui fait que puis mon grand-père venait de perdre sa femme, il a eu des difficultés, il s'était... Ils ont endetté pour faire une belle année, c'est-à-dire de greffe, parce que ça compte là-bas, dans la région beaujolaise. Et puis un matin, il s'est levé, il s'est rendu dans sa pépinière. Elle avait été passée au vitriol. Non, mais ça paraît un véritable drame de la terre. Et il a mis quelque temps avant de se rendre compte qu'il se pouvait être, qu'il y avait... disons, commis ce fait, quoi.
Oui, il fallait bien se douter.
mais ils étaient tellement amis. C'était son meilleur ami, son grand copain, quoi. Mais il ne se rendait pas bien compte que l'autre était très jaloux de ce qu'il pouvait faire. Et comme il avait investi, disons, pour faire une belle année, pour s'en sortir un petit peu mieux qu'il avait fait les années précédentes, eh bien, il a pris ombrage de la chose et même une jalousie féroce, quoi. Et alors, ma mère a eu beaucoup de mal, bien sûr, pour... Elle savait où elle en était, bien sûr, elle savait qu'elle me portait. Hein. Et alors, elle a fait part à mon grand-père. Mon grand-père, il me dit, écoute, toi, j'ai toujours pensé que j'étais trop jeune pour faire un grand-père, je serais donc son père. En parlant de moi.
Votre grand-père maternel.
Mon grand-père maternel, qui était un homme quand même du 19e siècle. Je trouve que c'était quand même pas mal. Il était né d'ailleurs la même année que Pablo Picasso, 1881. Ce grand-père avait donc fait la guerre de 14-18. Il avait d'abord fait son service militaire qui avait duré 3 ans. Ensuite, il avait été incorporé en 1914. Et bon, il est parti, laissant sa femme, bien sûr, à la maison, hein, laquelle a dû s'occuper de ses 2 enfants, mon oncle et ma mère.
Et donc votre grand-père, c'est lui qui a envoyé votre mère à Lyon pour... Comment elle s'est retrouvée dans cette...
Ben, elle, à mon avis, ils ont dû rechercher, enfin savoir comment elle pouvait...
Oui, elle vivait pas à Lyon en permanence.
Elle vivait avec son père. Elle remplaçait en quelque sorte ma grand-mère, puisque ma grand-mère étant décédée, c'est elle qui faisait la cuisine, qui faisait le ménage, etc.
Donc, pour terminer sa grossesse, on l'a envoyé à Lyon dans cette...
Alors, elle avait dû se renseigner, peut-être auprès de la mairie, je ne sais pas. Mais enfin, de toute façon, elle est venue tout naturellement, puisqu'on en avait sans doute beaucoup parlé. C'était quelque chose d'assez original, quand même. Parce qu'à l'époque, les filles mères, je ne pense pas qu'elles étaient particulièrement accueillies. Fallait donc une décision importante, une décision prise par Édouard Herriot.
Elle était bonne dans un petit restaurant, croyant encore l'amour des hommes sincères. Elle devint la maîtresse d'un client qui disparut la voyant près d'être mère. Et les habitués disaient dans ton argot, c'est singulier comme la petite bonne profite. Ici l'on mange des plats de premier choix, l'air de Paris fait engraisser la petite. Lorsqu'elle ne put cacher sa position, le patron lui dit étranglant de colère, vous avez mis la honte dans ma maison, fichez-moi le camp, je ne veux pas d'une fille mère. Étant sans source à la maternité, elle va demander le cœur gros de souffrance, si l'on voulait la prendre par charité, pendant quelque temps avant sa délivrance. Née dans 2 mois, répondit l'employé, lorsque viendra votre poupon qui est en route, on vous gardera pendant 9 jours entiers, c'est bien assez pour le prix que ça vous coûte. Dans d'autres asiles, on lui dit brusquement, j'ai pas de permis, oh, c'est une autre affaire. Adressez-vous à votre département, nous ne pouvons pas nous charger des filles mères. Les ironies de l'administration faisaient saigner le cœur de la pauvre gosse. Et les voyous, sans aucune compassion, passaient près d'elle en riant de sa bosse.
À la mairie, elle vient demander un secours. Chef de bureau lui dit d'un ton farouche,
j'ai trop précis, repassez un de ces jours, quand vous serez relevé de vos couches. Si vous gardez votre enfant avec vous, on vous donnera de longer une brassière, un beau berceau d'osier de 29 sous, et de plus 10 francs, c'est le tarif des filles mères.
Elle se dit, je vais retourner voir mes vieux, peut-être qu'au village on sera plus charitable.
Sans rien manger, des larmes plein les yeux, elle fit à pied la route interminable. En arrivant sur la grande place Elvie, monsieur le maire discourant d'une voix forte, on couronnait la rosière du pays. À bout de force, la fille mère tomba morte. Avant de chercher à donner de l'argent pour couronner la vertu des rosières, puisque la France réclame des enfants, donnez d'abord du pain aux filles de mère.
Ici, quelques précisions concernant l'œuvre sociale d'Édouard Herriot à cette époque-là. Il faut bien rendre hommage aux préoccupations sociales de Herriot, qui n'était pas que de mots dans les discours. En effet, en 1907, Édouard Herriot crée 12 crèches municipales, un orphelinat rue Chazière et la maison du château de Gerland pour recevoir les filles mères, maison définie comme un asile maternel où les femmes enceintes seraient admises avant leur accouchement et resteraient après leur accouchement pendant la période de temps nécessaire. Citation. En 1920, il crée un internat municipal pour les garçons au domaine de Tourveil,
En 1922, il crée un internat municipal pour les filles au château de Vernet. En 1920, il crée les HLM. Et en 1939, il aura construit ainsi 4400 logements sociaux. Et tout ceci sans parler des multiples aménagements et constructions avec Tony Garnier. Je vous propose de retrouver Fernand Gélin.
Et elle est restée longtemps, non? Dès que vous êtes née, elle est retournée en...
Ah oui, oui, moi je suis resté quelques jours, là.
Ouais. Il se trouve que vous êtes née là.
Tout à fait par
presque
hasard.
Presque par hasard.
Oui, oui. Puis mon grand-père a dû par la suite laisser, donc... D'ailleurs, c'était un paysan sans terre. Il louait les terres qu'il travaillait. Et puis, bon, en se trouvant du jour au lendemain, perclus de dettes... avec tout ce qu'il avait imaginé être productif, disparu, disons, eh bien, il est obligé de débarrasser de tout ce qu'il avait là-bas. Puis il a repris son métier de boulanger, à près de 60 ans, Mitron Boulanger sur Lyon. Là où, quelques années plus tard, il a accueilli ma mère et moi.
Ah oui, donc vous êtes revenu sur Lyon.
Je suis revenu sur Lyon.
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
C'était la métropole. Ben, j'ai dû arriver à Lyon, j'avais 6 ans.
Ah oui. Donc ça laisse quand même des souvenirs.
1934, quand même.
Donc à 6 ans, vous vous rappelez encore un petit peu de votre arrivée?
Ah oui, je me rappelle bien. Oui, oui. Mais alors, inutile de vous dire que nous étions des gens extrêmement modestes. Oui, on a vécu dans un garni. Mon grand-père avait une chambre, ma mère et moi, on en avait une autre. Et voilà, d'ailleurs, pas bien loin d'ici, à quelques 200-300 mètres. Et donc, je suis attaché à ce quartier aussi, même si j'en ai bavé, hein, parce que ça n'a pas été facile, toujours.
Donc là, vous êtes arrivé, vous êtes né en 34, vous m'avez
34.
Dit, donc, 37 et 6, 40, vous êtes arrivé, c'était la guerre qui...
C'était la guerre, j'étais un peu marqué par la guerre.
Déjà.
Moi, j'ai vu les premiers Allemands qui sont arrivés après l'ouverture de la zone libre, si on peut dire, aux troupes d'occupation. Hein. J'ai gardé des souvenirs vraiment très, très frais, alors là. Hein.
C'est quoi vos souvenirs
Des souvenirs, ne
de
serait-ce que...
les militaires défiler
Le premier... Oh non, 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 non. Parce que, là, justement, je rebondis là sur ce que vous venez de dire, parce que mon grand-père avait donc fait la guerre de 14-18. Il était rentré à l'issue de ce conflit, mais alors il était vraiment remonté, comme on dit, contre la guerre.
Pas contre les Allemands, contre la guerre.
Pour lui, les Allemands, ce qu'il avait en face de lui, c'était les Boches. Mais il n'en voulait pas aux Boches, il en voulait aux soldats. C'est-à-dire, il en voulait à ceux qui étaient face à lui. D'ailleurs, il est mort, il devait avoir 68 ans.
Il avait eu une vie difficile.
Il avait eu une vie très difficile, puis il est mort en 1949. Il est mort des gaz qu'il avait inhalés tout au long de la guerre.
Ah, oui.
Oui, il perdait. Il ne pouvait plus souffler, il avait de l'emphysème, de l'asthme, enfin, la nuit, il se débattait dans ses draps, il déchirait tous ses draps, parce qu'il ne pouvait plus respirer. Alors tout ça, ça l'avait marqué quand même. Mais enfin, il ne s'est jamais appesanti là-dessus. Mm-hmm. Par contre, la guerre, lui, il avait gardé une espèce de haine contre la soldatesque, et puis surtout l'autorité militaire.
Mm-hmm.
Et alors... C'est un homme du 19e siècle. Alors il me disait, mon cadet, c'était comme ça qu'il parlait, n'oublie pas que dans la famille, il n'y aura jamais de traîneur de sabre ni de brandisseur de goupillons. Alors donc moi,
pendant cette période de la guerre, donc comment il a vécu ça? Il l'a subi comme tout le monde ou...
Il l'a subi, mais difficilement.
Hein. Difficilement. Il ne sait pas. Alors, il n'avait plus trop l'âge, mais il ne s'est pas engagé dans une forme de résistance ou une autre.
En 1943, il a adhéré au Parti communiste.
Ah oui.
En pleine guerre, quand même.
Ah ben oui, il était interdit à ce moment-là.
Oui, il était interdit.
C'était prendre des risques.
Hein. Oui, oui.
Et qu'est-ce que vous en savez de cette période entre 43 et 44 qu'il a pu...
Ben moi, j'avais 10 ans en 44. Ah. Hein. Alors bon, je voyais les choses notamment à travers ce qu'en disait ma mère, ma mère qui travaillait à l'époque. Elle a travaillé à Place de la République, il y avait un café qui s'appelait le Café Riche. Je ne sais pas si vous voyez où se trouve l'habitat maintenant.
Ouais.
Mais c'était, là, c'est tout le bas du pâté de maison, c'était le Café Riche. Un grand Café Riche. Elle était baroumède, enfin. Et puis mon grand-père faisait son petit boulot de mitron boulanger. Alors pendant un temps, il a travaillé à la boulangerie militaire, il était au Fort Saint-Jean, après il a travaillé à Montluc.
Et puis... Et vous avez une idée pourquoi il a voulu adhérer au PC à ce moment-là ?
Ben, je pense parce que ça, pour lui, c'était la seule force... comment dirais-je ? La seule force digne de confiance à ce moment-là. Et puis, bon, il faut dire aussi que le Parti communiste, c'était des gens un peu comme lui, des ouvriers, des travailleurs, quoi. Parce qu'il n'était pas... Bon, c'était pas quelqu'un de sectaire, hein, pas du tout, pas du tout.
Peut-être qu'il avait un ami, non, qu'il a...
Je pense qu'il avait son fils.
Son fils.
Son fils qui était dans la résistance,
ah, oui.
Hein, dans la résistance, dans le sud de la Saône-et-Loire, et puis le nord du Rhône aussi. Je pense que vous connaissez la Sibérie. La Sibérie, là. Là où il y a eu d'ailleurs un petit massacre d'un petit noyau de maquisards.
La Sibérie, vous appelez ?
Oui, entre Julier et puis Sanve. Il y a une petite montagne, et là il y avait un petit, disons, une espèce de...
Maquis ?
Non ? Oui, il y avait un maquis, mais il y avait, disons, une espèce de ferme auberge. Et alors... Dans la journée, ils étaient dans la nature, et puis souvent le soir, ils se retrouvaient là-bas. Ah ben, j'ai connu d'ailleurs des gens dans mes activités à l'ARAC qui avaient fait partie de ce paquet et puis qui avaient donc connu mon oncle.
Ah, oui. Et à la fin de la guerre, il a survécu, lui.
Il a survécu, oui.
Okay. Qu'est-ce qu'il a fait à la Libération ? Il s'est engagé ou non ?
Ah non, il ne s'est pas engagé. Non, ben, il pouvait... enfin, c'était difficile pour lui parce qu'il avait quand même 4 gosses. Mmh. Alors pendant longtemps, sa femme avait dû faire face seule au problème du ménage. Alors lui, de temps en temps, il descendait sur Saint-Romain-des-Îles, je ne sais pas si vous connaissez. Mmh. C'est entre Toisset et puis Pont-à-Nevaux, c'est au bord de la Saône. Et il allait pêcher, mais pêcher au filet. Mmh. Et sa femme, la journée, vendait le poisson sur les marchés, du Haut-Beaujolais. Ben oui, il fallait faire bouillir la marmite.
Ce moyen était bon.
Oui, oui. Et alors donc, je pense que c'était une des raisons qui avait fait... C'était pas des militants forcenés, hein, mais enfin, c'était des gens qui avaient le sens quand même de la lutte, et puis de la lutte nécessaire, disons. Puis une lutte de classe, quoi, en quelque sorte aussi.
C'était un maquis FTP, vous savez.
FTP.
Et vous, donc, vous voyez ça de très loin, quoi. Vous saviez que votre
très loin,
était...
mais j'étais très fier de mon grand-père. C'était un homme. Enfin, il avait des faiblesses, comme tout le monde. Hein. Mais c'était quelqu'un.
Donc,
et puis, il a Il a assumé le rôle que mon père aurait dû en quelque sorte assumer. Pas toujours.
Donc, votre mère,
ça me faisait pas toujours plaisir.
Votre compagnon, elle a pas.
Si, elle a
couple plus tard.
Moi, j'ai eu ma mère. Elle a toujours aimé les hommes. Si vous laissez comme ça. Hein. Moi, ça me plaisait pas toujours. Mais enfin, moi, j'adorais tellement ma mère, j'acceptais tout ce qu'elle pouvait faire. Mais elle a. C'est-à-dire, c'était une personne qui était. Ma mère, enfin bon, je pourrais pas dire autrement, mais c'était quelqu'un de très intelligent. C'était une femme simple, qui a jamais eu confiance en elle, qui aurait pu faire... Elle a été brillante à l'école, mais à l'école communale. Hein. Mais elle était tellement peu sûre d'elle-même qu'elle se cantonnait à des travaux manuels plutôt qu'à des travaux intellectuels pour lesquels elle aurait été...
Elle aurait eu des dispositions.
Elle aurait eu de plus grandes dispositions. D'ailleurs, elle écrivait des poèmes.
Elle a vécu jusqu'à quand, elle?
Elle a vécu, d'ailleurs, le dernier appartement qu'elle a occupé, elle l'a occupé il n'y a pas bien loin d'ici. Je crois que c'est au 65 ou 67, en 81.
Voilà, donc fin de la guerre, vous avez 11 ans, 12 ans, vous allez au lycée, vous allez au collège, vous allez au travail.
C'est-à-dire qu'à l'école, je m'en tirais bien, sans être extrêmement courageux, un peu feignant, mais enfin, j'étais assez bon, même très bon. J'avais plusieurs années d'avance, mais pour moi, il n'était pas question de...
Pas les moyens pour...
Alors, ils ont tout fait, même mes instituteurs. Je leur en sais gré, d'ailleurs. Par exemple, ils m'ont fait passer l'examen des bourses, que j'ai réussi. J'ai été intégré à la Martinière, directement en cinquième. Mais ne pouvant, ma mère, à ce moment-là, elle est rentrée à l'hôpital, elle en est ressortie 9 mois plus tard. J'ai été élevé par des voisins.
Et votre mère, elle avait quoi? Tuberculose, non?
Ma mère, elle était usée. Parce que dans les premiers temps, là, quelques années après ma naissance, elle est donc restée à Chénard. Et là, elle faisait un travail de, pas de domestique, mais de femme de ménage. Elle lavait le linge à bras, si on peut dire. Hein. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver. Il y en a tout juste, oui. Et alors, bon... se tuer au boulot. Puis des patrons qui étaient toujours plus exigeants. Et puis, souvent aussi très pingres.
Donc 9 mois à l'hôpital pendant lesquels...
Alors moi, au moment, après, bon, les voisins, ils en ont eu certainement un petit peu marre. Alors ils m'ont placé à la campagne. Alors je suis allé dans l'Ain, j'ai gardé les vaches quoi, pendant 6 mois. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu... Mon invitation à me présenter à la Martinière. Mais à la Martinière, mon grand-père était au chômage, ma mère à l'hôpital, et alors il fallait payer les fournitures. Mais pas de sous. Alors je suis rentré dans un petit magasin de vélo, la rue d'Anvers. J'ai réparé les bicyclettes, ça me plaisait pas trop. Mais enfin bon, fallait bien faire quelque chose. Et puis après, j'avais trouvé un autre emploi, là, toujours dans le 7e arrondissement, rue Nicolaï. C'était une imprimerie qui s'appelait Giraud Rivoire. Oui. Giraud Rivoire.
Bien connu à Lyon.
Oui, c'était bien connu, ça. Alors là, je me rappelle, un patron caricatural. Hein. C'était les patrons de l'ancienne époque.
Qui a beaucoup collaboré aussi, je crois.
Oui, je crois. Et puis alors, tout son encadrement, c'était des gens qui lui étaient dévoués corps et âme. Hein. Alors, il se précipitait le matin pour aller lui ouvrir la porte de sa voiture, enfin, ahurissant. Et puis, moi, ça ne me plaisait pas bien. En plus, bon, on me faisait laver les rouleaux. J'étais aide-rotativiste à l'époque. Alors, je lavais donc les rouleaux, vous savez, sur les machines. Et puis, j'ai pris des verrues de partout. Ça ne me plaisait pas, alors je disais à ma mère... Il faudrait
mais ça, c'était à temps plein, c'était pas pour c'était
à temps plein, mais j'étais payé comme un apprenti.
Donc la Martinière, vous avez fait une croix ou...
J'ai fait une croix.
Vous n'y avez jamais été, finalement?
Si, j'y suis allé une quinzaine de jours.
Ah oui.
Le temps qu'on me réclame l'argent et que je n'ai pas pu avancer.
Et aussitôt après le boulot, quoi. Et vous aviez quel âge à ce moment-là?
J'avais 13-14 ans.
13-14. Donc vous étiez sorti avec le certificat d'études
du primaire. Deux. On a passé 2 certificats d'études à ce moment-là.
Ah bon.
Il y avait la première partie et la seconde partie.
Et vous allez rester dans cette usine assez peu, finalement, chérie?
Alors, je souhaitais en sortir. Et puis, dans mon quartier, là, donc, il y avait un garçon que je connaissais, je voyais passer à bicyclette. Il a de la chance. Il était télégraphiste. Encore un métier qui a disparu. Et alors, souvent, il s'arrêtait, on discutait, il disait, tu dois te débrouiller. Lui, son père était mort à la guerre, alors donc il avait en quelque sorte un emploi réservé. Alors je lui ai dit, oui, mais moi, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai pas de... Toi, ton père est mort à la guerre, tu as pu rentrer. Moi, j'ai servi qu'à l'étude. Non, enfin, c'est tout, j'ai personne, il faudrait un petit coup de piston. Ah, il me dit, oui, il faudrait te débrouiller. Alors, un beau jour, je sais pas, ça devait tourner dans ma tête. Alors, je dis à ma mère, écoute, maman, il faudrait que tu écrives. Tu écrives, je sais pas, moi... Tu m'as dit un jour que le maire de Lyon, il avait fait des choses pour toi, pour toi en tant que, que mère célibataire. On disait fille-mère à l'époque. Alors elle me dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, si tu veux, écoute, je vais faire une demande d'abord, une demande à la direction des PTT, et puis on verra ce que ça va donner. Alors bien sûr, la réponse est revenue très rapidement. Finalement, bon ben, on donnait une fin de non-recevoir à la demande. Alors, moi j'y tenais, hein, parce que je voyais le copain, il avait l'air d'être heureux. Et alors, je lui dis, mais tu sais, tu m'as dit que donc, Hériot, quand même, il était sensible au sort des... Enfin, je ne me suis peut-être pas exprimé comme ça, mais enfin, au sort des femmes comme toi, des filles-mères. Il me dit, oui, ben écoute, je vais lui dire que j'ai envoyé une lettre à la direction des PTT, hein, et puis que je souhaiterais qu'ils prennent cette demande en considération. Ma mère, elle écrivait très bien. Alors, finalement, elle écrit à Hériot. 8 jours après, j'étais convoqué.
Au PTT?
Au PTT. Ouais, il avait, je crois, sans doute, oui, puis peut-être un... une apostille sur la lettre, c'est quoi?
Et mais vous après, êtes embauché.
Et j'ai été embauché.
Télégraphiste?
Télégraphiste. Et alors ma mère, bien sûr, est allée me présenter, elle était contente. Puis alors en rentrant, sur le chemin du retour, en rentrant donc de la visite que nous avions faite à la direction des PTT, je lui ai dit, t'as vu maman? Elle me dit quoi? Le monsieur qui nous a reçus, il m'a dit vous. Ça peut paraître idiot, hein, mais franchement, j'avais trouvé ça formidable. Et alors là, donc, j'étais tellement bien que j'ai continué pendant 4-5 ans. Quoi.
Vous aviez quel âge?
À l'époque, je devais avoir 15 ans.
15 ans quand vous êtes entré?
Oui, pas tout à fait, 14 ans et demi.
Et vous avez fait toute votre carrière au PTT?
Bien sûr. Bien sûr. Alors, d'ailleurs, j'étais tellement bien, on m'a affecté à La Mouche, dans le 7e. Là-bas, c'était un quartier populaire, je connaissais tout le monde au bout de quelques temps. J'avais de bonnes étrennes, c'était des petites gens qui sont en général généreux. Moi, je donnais toute ma paye à ma mère, bien sûr. Et ça me permettait, mes étrennes permettaient d'aller au cinéma. Le cinéma, c'était la grande sortie, hein, des gamins de mon âge.
Mais 5 ans après, vous n'étiez plus avec le vélo et à distribuer les télégrammes, si?
Ah si, si. Oui. J'étais tellement bien. Je me laissais aller, quoi, finalement. Hein. Et puis, bon, il y avait quand même la menace du service militaire. Ben on
oui,
y arrive.
On va y venir.
Hein. On y arrive. Hein.
Parce qu'on était 5 ans après, ça faisait 54, quoi. C'était...
Oui, oui, oui. Bon, moi, j'étais incorporé. À l'époque, on incorporait tardivement.
20 ans. Hein.
J'avais 21 ans.
21.
Je crois que j'ai dû être incorporé le 15 juin 1955.
55.
C'est-à-dire au début presque de la guerre d'Algérie.
Qu'est-ce que vous saviez de l'Algérie à ce moment-là? Si vous essayez de vous souvenir, peut-être pas très facile.
C'est-à-dire que...
Vous y pensiez pas trop, si, quand même.
C'est-à-dire que malgré tout... J'avais des copains qui avaient fait leur service militaire, mais dans d'autres conditions. Les uns étaient allés dans les Alpes, là, comme chasseurs alpins, etc.
En Allemagne, enfin,
mais moi, j'ai pas eu de peau. J'ai été le premier contingent qui a été appelé par la suite en Algérie. Hein.
Ah oui, vous avez fait partie du premier contingent.
Peut-être pas le premier, mais enfin un des premiers. Un des premiers.
Quand ils ont fait appel au contingent.
Voilà, pour... voilà. Et au moment aussi, ils ont rappelé. Les gens qui avaient été libérés au bout de 13 ou 15 mois, enfin je sais pas, assez rapidement. Et après ils ont été amenés donc à grossir les effectifs.
Et vous pensiez, quand vous avez été incorporé, que vous alliez aller en Algérie ou vous ne saviez pas encore?
J'avais la crainte. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, mais j'avais déjà quelques idées quand même sur l'Algérie. Parce que mon grand-père, comme je vous l'ai dit précédemment, il était donc pépiniériste dans le Beaujolais, et chaque année, dans les années 1910, il allait en Algérie faire des greffes pour un patron viticulteur de là-bas.
Toujours votre grand-père maternel?
Mon grand-père maternel. Et il y allait avec son beau-frère et sa belle-sœur. De sa belle-sœur du côté de ma grand-mère, côté maternel.
Donc chez un colon en Algérie?
Chez un colon. Et alors, mon grand-père, il me disait comment ça s'était déroulé là-bas. Alors, notamment, il m'avait toujours cité un exemple. Il me dit un beau jour, mon patron, il faisait déjà plusieurs années qu'il y allait là-bas, alors il partait 6 mois. Partait à l'automne et il rentrait à la fin du printemps.
Ah oui.
Et là, il formait des groupes d'indigènes à faire des greffes, etc., et à travailler la vigne. Et alors, il me dit un beau jour, et à mon patron, il me dit, « Monsieur Gelin, vous passerez me voir ce soir. » Alors, il me dit, « Moi, ça m'a turlupiné. » Puis je lui dis d'emblée, « Mais pourquoi vous n'êtes pas content de moi ?»« Vous venez me voir ce soir. » Alors, bon, avec appréhension, mon grand-père a attendu le soir, quoi. Puis il se rend chez son patron. Le patron le fait asseoir. Il lui dit, alors, qu'est-ce que vous me reprochez? Il dit, oh, rien du tout, vous êtes un excellent travailleur, tout. Mais il y a quelque chose qui me gêne chez vous. Ah oui, il lui dit, quoi? Il lui dit, vous savez, vous avez du personnel. Mais c'est pas des gens comme chez vous, comme en France. C'est des indigènes. Ces gens-là, on les traite pas comme on traite le personnel en France. Ces gens-là, on les traite à coups de trique. Alors mon grand-père lui dit, ben écoutez, je travaille cette année pour vous, je finis mon année, et vous ne me reverrez pas l'année prochaine. Je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Et puis sur ces entrefaites, il y a eu la carte 14. Alors bon, il a été incorporé, et puis voilà, il est rentré 5 ans plus tard.
Oui, c'était avant 14.
Avant 14. Enfin, c'est pour dire, déjà. Et ça...
Donc ça, vous saviez ça.
Ça, je savais. Donc, ce qui ne m'a pas empêché, donc, faire mes instructions là, à Grenoble, au 4e génie. Mm-hmm. Et puis, à la fin de l'année, alors que j'étais soutien de famille, quand même...
C'était déjà marié à l'époque? Non, c'est non, par rapport à votre mère.
Oui, par rapport à ma mère. Mm-hmm. Et je pensais quand même y échapper, mais ils m'ont mis quand même dans le... Parce qu'ils voulaient garder quelqu'un qui était clairon. Alors donc, ils avaient un trou à boucher, et ils m'ont pris, pouf, et ils m'ont envoyé là-bas. Alors j'avais fait un petit scandale, là, voilà. Enfin, j'étais pas content. Hein. Puis arrivé là-bas, mais ils m'ont affecté à une compagnie...
Attendez. Donc vous avez fait combien en France les classes? 3 mois plus?
Oui, 4 mois.
4 mois. Et vous êtes parti dans quelles conditions? Vous vous souvenez? Enfin, tout votre groupe ensemble?
Il y avait une espèce de tri qui a été fait. Par exemple, pour dire que ce n'était pas très sérieux, il y avait quelqu'un, un bon copain, qui était moine. Il était au monastère de la Pierre qui vire dans le Morvan. Mm-hmm. Je peux même dire son nom. Il s'appelait Bruno. Enfin, je dirais son prénom, Bruno. Et alors lui, il avait tous les dimanches, le samedi je crois, il allait à la cathédrale de Grenoble et il jouait de l'orgue. Il n'était pas question de s'en passer. Alors lui, il aurait pu aller, mais après ils l'ont gardé. Puis moi, je suis parti. Alors je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien juste quand même.
Quand vous êtes parti, les jeunes que vous étiez, le groupe ne perçoit pas de résistance particulière?
Non, on était les premiers à partir, il n'y avait pas encore bien de...
Et vous aviez une idée de ce que vous alliez
faire? Prise de conscience, quoi, disons.
Vous aviez une vision de ce que vous alliez faire une fois là-bas ou pas du tout?
Ben, moi j'avais qu'une fausse, c'est d'y laisser ma peau, quoi.
Ouais.
Il y a quand même quelque chose que j'ai oublié de vous dire. C'est que je suis resté, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 5 ans comme télégraphiste à Lyon-Mouche. Mais entre-temps, j'ai fait un certain nombre de choses. Choses qui me plaisaient énormément. Je me souvenais du temps passé à l'école. On avait un maître qui aimait le théâtre, qui nous faisait apprendre des pièces, des poésies, des choses comme ça. Et moi, ça m'avait toujours plu. Et alors, je caressais l'idée d'un jour de faire du théâtre. Et pour faire du théâtre, il était nécessaire donc d'apprendre l'art dramatique. Alors, j'étais renseigné sur des gens qui avaient également un peu tâté du théâtre. Ils ne connaissaient pas un professeur. Alors, on m'a donné un nom. Et puis, j'ai donc rencontré cette personne. Et pendant plusieurs années, 3 ans...
C'était qui? Vous vous souvenez de son nom?
Oui. Madame Ponce Arlès. Elle était professeure au conservatoire, mais elle était à la retraite à ce moment-là. Et son mari, lui, il avait été, Monsieur Ponce Arlès, il avait été professeur au conservatoire, mais surtout, il avait créé une pièce en tant que personnage principal, c'est Boubou Roche de Georges Courteline. Alors, la dame Ponce Arlès, elle, son mari, c'était une personnalité, mais enfin, c'était quelqu'un d'une autre époque. Mais ça me plaisait énormément.
Vous êtes un petit peu monté sur les planches à ce moment-là?
Un petit peu, je suis allé au conservatoire à Grenoble par la suite. Enfin, mais non, c'est justement. Je suis donc rentré au service militaire en juin 1955 et je suis ressorti en septembre 1957, c'est-à-dire 3 ans quand même. Et moi, j'avais pas d'arrière.
2 ans, 57, ça fait 2 ans et 3 mois, c'est ça?
Oui. C'était 27 mois, quoi. Hein. Fin septembre 57.
Donc, vous partez en Algérie, vous prenez le train à Grenoble, et comment ça se passe? Vous allez jusqu'à Marseille?
Jusqu'à Marseille, on est reçu à Sainte-Marthe, comme beaucoup, hein. Et puis là, on embarque sur à l'époque, c'était le Kérouan. Le Kérouan, soi-disant un bateau rapide, mais enfin qui avait un peu du roulis, quoi, ce qui faisait que tout le monde vomissait, sauf moi, mais je ne pouvais pas supporter l'odeur, parce que alors, c'était que des râles, hein, un concert de râles sur tout le bateau.
Hein. Puis, alors, il y avait la tempête, quoi.
La mer était un peu agitée, quoi. Puis alors, comme le bateau, il avait déjà naturellement un peu de roulis, alors ça secouait particulièrement. Hein. Et puis on arrive là-bas. Un drôle d'effet.
D'arriver où?
À Alger. Alger. Alors là, apparemment, ça s'est bien passé. Ils nous ont monté dans les camions. Direction Tizi Ouzou. En Kabylie. Et puis là, alors, un tri. Et alors, les gens, attention, il y a un endroit où il n'est pas bon d'aller. Hein, c'est la 3e compagnie. Moi, manque de peau.
Pourquoi cette 3e compagnie avait mauvaise réputation?
Mauvaise réputation parce que, d'abord, elle était complètement perdue dans le djebel, comme on disait là-bas. Et puis, il y avait un encadrement particulier. Le capitaine, c'était un capitaine, il était ancien de la Légion Génie. Alors, il faisait régner un ordre autoritaire, dictatorial, comme on veut. C'était un fou, malade et fou. Et alors, lui, personne, même le lieutenant, son adjoint, ne pouvait rien lui dire. Il n'y avait que lui qui décidait, il faisait tout. Et alors, une discipline épouvantable. Alors, les gens qui respectaient pas la discipline, ils se retrouvaient à creuser un trou le soir pour passer la nuit au fond. à une cinquantaine ou 200 mètres du fort, parce qu'on était dans un petit fort perdu dans la montagne. Et là, le gars, il avait la frousse toute la nuit, parce que peur de se faire couper la gorge.
Et vous êtes tombé dans cette compagnie?
J'ai tombé dans cette compagnie.
Donc alors, compagnie, c'est 300 militaires à peu près?
Oui, là c'était un peu moins. On était une centaine. Une centaine, et il y avait trois sections de 30 soldats.
Et elle était située dans...
Elle était située dans la région d'Azazga, mais sur la route de Yakouren. Et alors là, c'était vraiment paumé.
Et vous avez vu des... Félagas, comme on disait.
Ah oui, oui. Enfin, les félous, ils disaient. Mais enfin, bon, il y avait de tout.
Et vous étiez confronté ou...
Ah bah oui, on a été même attaqué, on a eu des choses. Je me rappelle, enfin, on en parlera, parce que en plus, ce qu'il y a, c'est qu'elle avait pour mission, cette compagnie, de percer une route pour desservir un petit village qui était perdu dans la montagne. Et alors, il y avait des camions qui déversaient des cailloux, et puis on cassait les cailloux avec des massettes. Toute la journée. Oui. Et alors, il y avait le chef de Et le chef de chantier, qui était général, sergent-chef, il arrivait que ce soit un lieutenant. Alors lui mettait donc des sentinelles.
Quelques gardiens à chaque bout.
Oui, un peu en amont, en aval, etc. Et puis il en mettait une troisième sur un petit piton pour surveiller l'arrivée du capitaine. On craignait le capitaine autant que les terroristes, entre guillemets, quoi. Hein. Oh oui, ben c'était épouvantable. Alors, soi-disant, dans les milieux du FLN, là-bas, ils appelaient le capitaine imprudent. Parce qu'il montait tout seul. Nous, on montait en camion, quoi, mais lui, à pied, il faisait sans doute sa promenade de santé, hein, le matin. Et alors... avec son... Puis alors, c'était un personnage. Il me rappelle, quand nous sommes arrivés dans le poste, alors, c'était même pas un officier, ça devait être un sous-off, là, qui nous dit, bon, ben, vous allez être présenté au capitaine, chacun à votre tour. Alors, vous allez tous vous mettre en file indienne, devant le marabout du capitaine. Et alors, chaque fois qu'il y avait un gars qui rentrait dans le marabout, il ressortait aussitôt. Il était là, il rangeait son treillis, il asseyait bien sa tarte sur la tête.
L'autre l'avait envoyé se présenter correctement.
Ah, c'était épouvantable.
Il a fini la guerre, cet homme-là ou...
Non. Non. Alors, ce qui était terrible, c'est que souvent, alors il y avait plusieurs postes, bien sûr, pour la nuit, puis même durant la journée, pour sécuriser en quelque sorte le poste. Et alors, il y avait, au-dessus du marabout du capitaine, il y avait un mirador. Et alors, quand on était garde au mirador, toute la nuit, on entendait tousser. Une petite toux sèche, la toux des tuberculeux. Il était tuberculeux. Il avait dû contracter ça en Indochine. Et alors, il nous faisait de la peine. Mais alors, dès qu'il y avait un gars qui, bon, il croyait avoir vu quelqu'un qui s'avançait, qui tirait, lui, il était premier avant même le chef de poste. Hein, parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Hein. Et puis, il a été déplacé. Alors, il avait fait toute espèce de recours pour ne pas partir. Tout. Et alors, il avait cette manie. C'est que tous les jours, il changeait d'uniforme et de tenue. À tel point que tous les autres officiers, soi-disant subalternes ou supérieurs, avaient décidé de le coincer sur la tenue. Ils n'y sont jamais parvenus. Parce qu'il vivait avec son bouquin, l'instruction, sur sa table de nuit, si on peut dire, quoi, pour. Et il la repassait tous les jours. Et il se changeait tous les jours. Alors, dès quelques fois, il y avait 50 cm de boue. C'est un grand bonhomme. Physiquement, c'était une espèce de... Il ressemblait, par le physique, un peu à De Gaulle en plus mince. Il avait une petite moustache un peu à la Hitler. Un képi. Et alors tout ce qui allait avec le képi, ou alors quand il quittait son képi, il mettait un calot, il y avait tout l'uniforme qui changeait aussi. Ah, c'était un malade, en quelque sorte.
Vous avez personnellement eu affaire à lui, ou pas plus que ça?
Ah ben oui, et c'est là que l'art dramatique m'a servi. Parce que j'étais, bon, je pensais que j'étais antimilitariste. Je l'étais en réalité, mais enfin je ne savais pas trop ce que c'était que d'être antimilitariste. Et puis, je me suis dit, bon sang, alors il y a des gens, ils posaient la question. Le type qui rentrait dans son marabout, alors il disait, tu aimes l'armée? Non, mon colonel. Il rentrait aussitôt, il le foutait dehors. Alors moi, quand j'ai reçu, alors il me dit, est-ce que tu aimes l'armée? Oui, mon capitaine. Alors, je regardais en l'air. J'ai dit oui à tout ce qu'il disait. Je suis sorti. Mais là, finalement, je lui disais ce qu'il avait envie d'entendre. Quoi, c'est tout. Hein. J'étais nullement sincère à ce moment-là. J'ai pensé que c'était le seul moyen pour m'en sortir. Pas élégamment, mais enfin, sans dommage, disons.
Mort au con, disait cet homme, qui n'était que capitaine d'une centaine de garçons, matricule sans prénom, qu'on solde dans les casernes. Capiton, capitaine, capitaine et képicon. Mort au con, mon capitaine, si j'étais dans vos chaussons, de retraité mégalon, rougirais d'une certaine partie de chasse au raton. Capiton, capitaine, capitaine et képicon. Mort au con, mon capitaine, est-ce l'amour de trois galons ou la peur de cinq ficelles qui vous fait mal au colon devant un comité de troufions? Capiton, capitaine, capitaine et képicon. Mort au con, mon capitaine, rappelez-vous la chanson Dynamo, couille électrode, de la graine pour la gégène, et c'est toujours à la mode. Capiton, capitaine, capitaine et képicon. Mort au con, mon capitaine, Pinochet au balcon, il vous regarde astiquer, vos galons déshonorés, vous avez tué Allende. Capiton, capitaine, capitaine et képicon. Mort au con, mon capitaine, j'étais un de ces garçons dont l'armée républicaine fait de la chair à canon, je m'appelle toujours Fanon. Capiton, capitaine, capitaine et képicon. Capiton, capitaine, je m'appelle toujours Fanon.
Ainsi se termine cette première émission d'une série de deux consacrée à Fernand Jelin, qui a fait partie de ces 1 343 000 jeunes Français appelés entre 1956 et 62. Pour aller combattre en Algérie, dont plus de 13 000 ne sont pas revenus vivants. Nous vous proposons de le retrouver la semaine prochaine pour évoquer la suite de son expérience de la guerre d'Algérie en Algérie, puis de militaire en France et de militant contre cette guerre avant sa fin. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes, Le temps des noyaux de Jacques Prévert, dit par François Chaumette. Puis c'était Tichot qui chantait la chanson Le Chant d'honneur sur un texte d'Eugène Bizot, une musique de François Garnier. Ensuite, vous avez entendu Pour les filles mères, interprétée par les frères Jacques, une chanson de Brio et le Lièvre sur une musique de Christinet, chanson qui a été créée en 1902. Et enfin, c'était Maurice Fanon qui, sur ses paroles et sur la musique de Gérard Joannest, interprétait Képicon. Bonsoir.
Thank you.